Chapitre 2, suite. Ils se séparèrent de bonne heure. Leur chambre était voisine. Une porte intérieure menait de l'une à l'autre. Christophe vérifia machinalement que le verrou était mis du côté de Sabine. Il se coucha et s'efforça de dormir. La pluie cinglait les vitres. Le vent ululait dans la cheminée. Une porte battait à l'étage au-dessus. Un peuplier battu par l'ouragan craquait devant la fenêtre. Christophe ne pouvait fermer les yeux. Il pensait qu'il était sous le même toit, auprès d'elle. Un mur l'en séparait. Il n'entendait aucun bruit dans la chambre de Sabine, mais il croyait la voir. Soulevé sur son lit, il l'appelait à voix basse, à travers la muraille. Il lui disait des mots tendres et passionnés. Et il lui semblait entendre la voix aimée, qui lui répondait, qui redisait ses paroles, qui l'appelait tout bas. Il ne savait pas si c'était lui qui faisait les demandes et les réponses, ou si vraiment elle parlait. À un appel plus fort, il ne put résister. Il se jeta hors du lit. À tâtons dans la nuit, il s'approcha de la porte. Il ne voulait pas l'ouvrir. Il se sentait rassuré par cette porte fermée. Et comme il touchait de nouveau à la poignée, il vit que la porte s'ouvrait. Il fut saisi. Il la referma doucement, il la rouvrit, il la referma encore. N'était-elle pas fermée tout à l'heure? Oui, il en était sûr. Qui donc l'avait ouverte? Les battements de son cœur l'étouffaient. Il s'appuya sur son lit, il s'assit pour respirer. Il était terrassé par la passion. Elle lui enlevait la faculté de faire aucun mouvement. Tout son corps fut pris d'un tremblement. Il avait la terreur de cette joie inconnue qu'il appelait depuis des mois, et qui était là, près de lui, dont rien ne le séparait plus. Ce garçon violent et possédé d'amour, brusquement, ne sentait plus qu'effroi et répugnance devant ses désirs réalisés. Il avait honte d'eux, honte de ce qu'il allait faire. Il aimait trop pour oser jouir de ce qu'il aimait. Il le redoutait plutôt. Il eut tout fait pour éviter d'être heureux. Aimer, aimer, n'est-ce donc possible qu'au prix de profaner ce qu'on aime? Il était retourné près de la porte, et, tremblant d'amour et de crainte, la main sur la serrure, il ne pouvait se décider à ouvrir. Et de l'autre côté de la porte, ses pieds nus sur le carreau, grelottante de froid, Sabine était debout. Ainsi ils hésitèrent. Combien de temps? Des minutes? Des heures? Ils ne savaient pas qu'ils étaient là, et pourtant ils le savaient. Ils se tendaient les bras. Lui écrasé par un amour si fort qu'il n'avait pas le courage d'entrer, elle l'appelant, l'attendant, et tremblant qu'il n'entrât. Et quand il se décida enfin à entrer, elle venait de se décider à repousser le verrou. Alors il se traita de fou. Il pesa sur la porte de toute sa force, sa bouche collée sur la serrure, il supplia « Ouvrez !» Il appelait Sabine tout bas. Elle pouvait entendre son souffle haletant. Elle restait près de la porte, immobile, glacée, claquant des dents, sans force ni pour ouvrir ni pour se recoucher. L'ouragan continuait à faire craquer les arbres et battre les portes de la maison. Ils retournèrent, chacun vers son lit, le corps brisé, le cœur plein de tristesse. Les coqs chantaient d'une voix enrouée. Les premières lueurs de l'aube parurent à travers les carreaux couverts de buée. Une aube lamentable, blafarde, noyé dans l'opiniâtre pluie. Christophe se leva dès qu'il put. Il descendit dans la cuisine, il causa avec les gens. Il avait hâte d'être parti, et il craignait de se retrouver seul en présence de Sabine. Ce lui fut presque un soulagement quand la fermière vint dire que Sabine était souffrante, qu'elle avait pris froid dans la promenade d'hier, et qu'elle ne partirait pas ce matin. Le trajet du retour fut lugubre. Il avait refusé la voiture et revenait à pied, par les campagnes mouillées, dans le brouillard jaunâtre qui enveloppait la terre, les arbres et les maisons d'un linceul. Ainsi que la lumière, la vie semblait éteinte. Tout avait l'air de spectre. Lui-même était comme un spectre. À la maison, il trouva des visages irrités. Tous étaient scandalisés qu'il eût passé la nuit, Dieu sait où, avec Sabine. Il s'enferma dans sa chambre et se mit à travailler. Sabine revint le lendemain et s'enferma de son côté. Ils prirent garde de ne pas se rencontrer. Le temps était toujours pluvieux et froid. Ni l'un ni l'autre ne sortaient. Ils se voyaient derrière leurs vitres closes. Sabine était enveloppée au coin du feu et songeait. Christophe était enfoui dans ses papiers. Ils se saluaient d'une fenêtre à l'autre avec réserve. Ils ne se rendaient pas compte exactement de ce qu'ils sentaient. Ils s'en voulaient l'un à l'autre. Ils s'en voulaient à eux-mêmes, ils en voulaient aux choses. La nuit de la ferme était écartée de leurs pensées. Ils en rougissaient, et ils ne savaient pas s'ils rougissaient davantage de leur folie ou de n'y avoir pas cédé. Il leur était pénible de se voir, car cette vue leur rappelait des souvenirs qu'ils voulaient fuir. Et, d'un commun accord, ils se retirèrent l'un et l'autre au fond de leur chambre pour s'oublier tout à fait. Mais cela n'était pas possible, et ils souffraient de cette hostilité secrète. Christophe était poursuivi par l'expression de sourde rancune qu'il avait pu lire une fois sur le visage glacé de Sabine. Elle n'était pas moins malheureuse de ses pensées. Elle avait beau les combattre, les nier même, elle ne pouvait pas s'en défaire. Il s'y joignait la honte que Christophe eût deviné ce qui se passait en elle, la honte de s'être offerte et de ne s'être pas donnée. Christophe accepta avec empressement l'occasion qui se présenta d'aller pour quelques concerts à Cologne et à Düsseldorf. Il était bien aise de passer 2 ou 3 semaines loin de la maison. La préparation de ses concerts et la composition d'une œuvre nouvelle qu'il voulait y jouer l'occupèrent tout entier, et il finit par oublier les souvenirs importuns. Il s'effaçait aussi de l'esprit de Sabine, reprise par la torpeur de sa vie habituelle. Ils en vinrent à penser l'un à l'autre avec indifférence. S'étaient-ils vraiment aimés? Ils en doutaient. Christophe fut sur le point de partir pour Cologne, sans avoir dit adieu à Sabine. La veille de son départ, un je ne sais quoi les rapprocha. C'était une de ces après-midi de dimanche où tous étaient à l'église. Christophe aussi était sorti pour terminer ses préparatifs de voyage. Sabine, assise dans son minuscule jardin, se chauffait aux derniers rayons du soleil. Christophe rentra. Il était pressé. Son premier mouvement en la voyant fut de saluer et de passer. Mais quelque chose le retint au moment où il passait. Fût-ce la pâleur de Sabine, ou quelque sentiment indéfinissable, remords, crainte, tendresse? Il s'arrêta, se retourna vers Sabine, et, appuyé sur la clôture du jardin, il lui souhaita le bonsoir. Sans répondre, elle lui tendit la main. Son sourire était plein de bonté, d'une bonté qu'il ne lui avait jamais vue. Son geste voulait dire « paix entre nous ». Il saisit sa main par-dessus la barrière, il se pencha sur elle et la baisa. Elle n'essaya point de la retirer. Il avait envie de se jeter à genoux, de lui dire « je vous aime ». Ils se regardèrent en silence. Mais ils ne s'expliquèrent point. Après un moment, elle dégagea sa main, elle détourna la tête. Il se détourna aussi afin de cacher son trouble. Puis ils se regardèrent de nouveau avec des yeux rassérénés. Le soleil se couchait. Des nuances subtiles, violets, oranges et mauves, couraient dans le ciel froid et clair. Elle resserra frileusement son châle sur ses épaules, d'un geste qui lui était familier. Il demanda « Comment allez-vous ? » Elle fit une petite moue, comme si cela ne valait pas la peine de répondre. Ils continuaient de se regarder, heureux. Il leur semblait qu'ils s'étaient perdus et qu'ils venaient de se retrouver. Il rompit enfin le silence et dit « Je pars demain. » La figure de Sabine s'effara. « Vous partez ? » répéta-t-elle. Il se hâta d'ajouter « Oh, seulement pour 2 ou 3 semaines. »« 2 ou 3 semaines, » dit-elle, d'un air consterné. Il expliqua qu'il s'était engagé pour des concerts, mais qu'une fois de retour, il ne bougerait plus de tout l'hiver. « L'hiver, » dit-elle, « c'est loin. »« Mais non, » fit-il, « ce sera bientôt arrivé. » Elle hochait la tête sans le regarder. « Quand nous reverrons-nous ? » dit-elle, après un instant. Il ne comprit pas bien cette question. Il y avait déjà répondu. « Aussitôt que je serai revenu, dans 15 jours, 20 au plus. » Elle gardait son air atterré. Il essaya de plaisanter. « Le temps ne vous durera pas, » dit-il. « Vous dormirez. » « Oui, » dit Sabine. Elle essayait de sourire, mais sa lèvre tremblait. « Christophe, » dit-elle tout à coup, en se redressant vers lui. Il y avait dans sa voix un accent de détresse. Elle semblait dire « Restez, ne partez pas. » Il lui saisit la main, Il la regarda. Il ne comprenait pas l'importance qu'elle attachait à ce voyage de 15 jours. Mais il n'attendait qu'un mot d'elle pour lui dire « Je reste ». Au moment où elle allait parler, la porte de la rue s'ouvrit et Rosa apparut. Sabine retira sa main de la main de Christophe et rentra précipitamment chez elle. Sur le seuil, elle le regarda une fois encore et disparut. Christophe pensait la revoir dans la soirée, mais, surveillé par les Vogel, suivi partout par sa mère, en retard comme toujours dans ses préparatifs de voyage, il ne put trouver un instant pour s'échapper hors de chez lui. Le lendemain, il partit de très bonne heure. En passant devant la porte de Sabine, il eut envie d'entrer, de frapper à la fenêtre. Il lui était pénible de la quitter sans lui avoir dit au revoir, car il avait été interrompu par Rosa avant d'avoir eu le temps de le faire. Mais il pensa qu'elle dormait et qu'elle lui saurait mauvais gré de l'avoir réveillée. Puis, que lui dirait-il? Il était maintenant trop tard pour renoncer au voyage. Et si elle le lui demandait? Enfin, il ne s'avouait pas qu'il n'était pas fâché d'essayer son pouvoir sur elle. Au besoin de lui faire un peu de peine, il ne prenait pas au sérieux le chagrin que son départ causait à Sabine. Et il pensait que cette courte absence augmenterait la tendresse que, peut-être, elle avait pour lui. Il courut à la gare. Malgré tout, il avait quelques remords. Mais dès que le train se mit en marche, tout fut oublié. Il se sentait le cœur plein de jeunesse. Il salua gaiement la vieille ville, dont le soleil rosissait les toits et le sommet des tours. Et, avec l'insouciance de ceux qui partent, il dit adieu à ceux qui restaient, et il n'y pensa plus. Pendant tout le temps qu'il fut à Düsseldorf et à Cologne, Sabine ne lui revint pas un jour à l'esprit. Absorbé du matin au soir par les répétitions et les concerts, par les dîners et les conversations, occupé de 1000 objets nouveaux et de la satisfaction orgueilleuse de ses succès, il n'eut pas le temps de se souvenir. Une seule fois, la 5e nuit après son départ, se réveillant brusquement après un cauchemar, il s'aperçut qu'il pensait à elle en dormant, et que c'était cette pensée qui l'avait réveillé. Mais il lui fut impossible de se rappeler comment il pensait à elle. Il était angoissé et agité. Ce n'était pas surprenant. Il avait joué le soir dans un concert, et au sortir de la salle, il s'était laissé entraîner à un souper où il avait bu quelques verres de champagne. Ne pouvant dormir, il se leva. Une pensée musicale l'obsédait. Il se dit que c'était cela qui le tourmentait en dormant. Et il l'écrivit. En la relisant, il fut frappé de voir combien elle était triste. Il n'avait aucune tristesse en l'écrivant. Du moins, il lui semblait ainsi. Mais il se souvint que d'autres fois, quand il était triste, il ne pouvait écrire que des musiques joyeuses dont la gaieté le blessait. Il ne s'y arrêta pas davantage. Il était habitué, sans les comprendre, aux surprises de son monde intérieur. Il se rendormit aussitôt après et ne se rappelait plus rien le lendemain matin. Il prolongea son voyage de 3 ou 4 jours. Il s'amusait à le prolonger, sachant qu'il lui suffisait de vouloir pour revenir aussitôt. Il n'était pas pressé de rentrer. Ce ne fut que dans le wagon, sur le chemin du retour, que la pensée de Sabine le reprit. Il ne lui avait pas écrit. Il était même si insouciant qu'il n'avait pas pris la peine de réclamer à la poste les lettres qu'on aurait pu lui adresser. Il trouvait une jouissance secrète à ce silence. Il savait que là-bas on l'attendait et qu'on l'aimait. Qu'on l'aimait, jamais elle ne le lui avait dit encore. Jamais il ne le lui avait dit. Sans doute il le savait, sans avoir besoin de le dire. Pourtant, rien ne valait la sûreté de cet aveu. Pourquoi avait-il tant attendu pour le faire? Quand ils étaient prêts de parler, quelque chose toujours, un hasard, une gêne, les en avait empêchés. Pourquoi? Pourquoi? Que de temps ils avaient perdu. Ils brûlaient d'entendre les chères paroles sortir de la bouche aimée. Ils brûlaient de les lui dire. Il les disait tout haut dans son compartiment vide. À mesure qu'il approchait, l'impatience l'étreignait, une sorte d'angoisse. Plus vite donc. Oh, pensez que dans une heure il allait la revoir. Il était 6h30 du matin quand il rentra dans la maison. Personne n'était encore levé. Les fenêtres de Sabine étaient fermées. Il passa dans la cour sur la pointe des pieds pour qu'elle ne l'entendît pas. Il riait de la surprendre. Il monta chez lui. Sa mère dormait. Il fit sa toilette sans bruit. Il avait faim, mais il craignait d'éveiller Louisa en cherchant dans le buffet. Dans la cour, il entendit des pas. Il ouvrit doucement sa fenêtre et vit Rosa, qui, la première levée, comme d'habitude, commençait à balayer. Il l'appela à mi-voix. Elle eut un mouvement de surprise joyeuse en le voyant, puis elle prit un air sévère. Il pensa qu'elle lui en voulait encore, mais il était d'excellente humeur en ce moment. Il descendit auprès d'elle. « Rosa, Rosa, » dit-il d'une voix joyeuse, « donne-moi à manger ou je te mange, je meurs de faim. » Rosa sourit et l'emmena dans la cuisine du rez-de-chaussée. En lui versant une jatte de lait, elle ne pouvait s'empêcher de lui poser une kyrielle de questions sur son voyage et sur ses concerts. Mais bien qu'il fût disposé à y répondre, dans le bonheur d'être revenu, il était presque heureux de retrouver le bavardage de Rosa. Rosa s'arrêtait brusquement au milieu de ses interrogations, sa figure s'allongeait, elle détournait les yeux, elle était soucieuse. Puis le bavardage reprenait, mais il semblait qu'elle se le reprochât, et de nouveau, elle s'arrêtait court. Il finit par le remarquer, et dit « Mais qu'est-ce que tu as donc, Rosa? Est-ce que tu me boudes ?» Elle secoua énergiquement la tête pour dire que non, et se tournant vers lui, avec une brusquerie habituelle, des deux mains elle lui prit le bras. « Oh, Christophe !» dit-elle. Il fut saisi, il laissa tomber le morceau de pain qu'il tenait. « Quoi? Qu'est-ce qu'il y a » fit-il. Elle répétait « Oh, Christophe, il est arrivé un tel malheur !» Il repoussa la table, il bégaya « Ici ?» Elle montra la maison de l'autre côté de la cour. Il cria « Sabine ?» Elle pleura. Elle est morte. Christophe ne vit plus rien. Il se leva, il se sentit tomber, il s'accrocha à la table, il renversa ce qui était dessus, il voulut crier. Il souffrait de douleurs atroces. Il fut pris de vomissements. Rosa, épouvantée, s'empressait auprès de lui. Elle lui tenait la tête, pleurait. Aussitôt qu'il put parler, il dit « Ce n'est pas vrai ». Il savait que c'était vrai, mais il voulait le nier. Il voulait faire que ce qui était ne fût pas. Quand il vit le visage de Rosa tout ruisselant de larmes, il ne douta plus et il sanglota. Rosa releva la tête. « Christophe, » fit-elle. Étendu sur la table, il se cachait la figure. Elle se pencha vers lui. « Christophe, maman vient. » Christophe se redressa. « Non, non, je ne veux pas qu'elle me voie. » Elle lui prit la main, elle le guida, chancelant, aveuglé par ses pleurs, jusqu'à un petit bûcher qui donnait sur la cour. Elle referma la porte. Ils se trouvèrent dans la nuit. Il s'assit au hasard sur un billot qui servait à fendre le bois. Elle, sur des fagots. Les bruits du dehors arrivaient, amortis et lointains. Là, il pouvait pleurer sans crainte d'être entendu. Il s'abandonna à ses sanglots avec fureur. Rosa ne l'avait jamais vu pleurer. Elle ne pensait même pas qu'il pût pleurer. Elle ne connaissait que ses larmes de petite fille, et ce désespoir d'homme la remplissait d'effroi et de pitié. Elle était pénétrée pour Christophe d'un amour passionné. Cet amour n'avait rien d'égoïste. C'était un immense besoin de sacrifice, une abnégation maternelle, une soif de souffrir pour lui, de lui prendre tout son mal. Elle lui passa son bras par-dessus l'épaule. « Cher Christophe, » dit-elle, « ne pleure pas. » Christophe se détourna. « Je veux mourir. » Rosa joignit les mains. « Ne dis pas cela, Christophe. »« Je veux mourir. Je ne peux plus, je ne peux plus vivre. À quoi sert-il de vivre ?»« Christophe, mon petit Christophe, tu n'es pas seul, on t'aime. Qu'est-ce que cela me fait? Je n'aime plus rien. Tout le reste peut bien vivre ou mourir. Je n'aime rien, je n'aimais qu'elle, je n'aimais qu'elle. » Il sanglota plus fort, la tête cachée dans ses mains. Rosa ne pouvait plus rien dire. L'égoïsme de la passion de Christophe la poignardait. À l'instant où elle croyait être le plus près de lui, elle se sentait plus isolée et plus misérable que jamais. La douleur, au lieu de les rapprocher, les séparait encore. Elle pleura amèrement. Après quelque temps, Christophe s'interrompit de pleurer et demanda « Mais comment? Comment ?» Rosa comprit. Elle a pris l'influenza le soir de ton départ. Tout de suite, elle a été emportée. Il gémissait. « Mon Dieu, pourquoi ne m'a-t-on pas écrit ?» Elle dit « J'ai écrit. Je ne savais pas ton adresse. Tu ne nous avais rien dit. J'ai été demandé au théâtre. Personne ne la savait. Il savait combien elle était timide et combien cette démarche avait dû lui coûter. Il demanda « Est-ce qu'elle t'avait dit de le faire ?» Elle secoua la tête. « Non, mais j'ai pensé. » Il la remercia du regard. Le cœur de Rosa se fondit. « Mon pauvre, pauvre Christophe » dit-elle. Elle se jeta à son cou en pleurant. Christophe sentit le prix de cette pure tendresse. Il avait tant besoin d'être consolé. Il l'embrassa. « Tu es bonne, » dit-il. « Tu l'aimais donc, toi ?» Elle se détacha de lui, elle lui jeta un regard passionné, ne répondit pas et se remit à pleurer. Ce regard fut une illumination pour lui. Ce regard voulait dire « Ce n'était pas elle que j'aimais. » Christophe vit enfin ce qu'il n'avait pas vu, ce qu'il n'avait pas voulu voir depuis des mois. Il vit qu'elle l'aimait. « Chut, » dit-elle, « on m'appelle. » On entendait la voix d'Amalia. Rosa demanda « Veux-tu rentrer chez toi ?» Il dit « Non, non, je ne pourrai pas encore. Je ne pourrai pas causer avec ma mère. Plus tard. » Elle dit « Reste, je reviendrai tout à l'heure. » Il resta dans le bûcher obscur, où un filet de jour tombait d'un étroit soupirail, vêtu de toile d'araignée. On entendait le cri d'une marchande dans la rue. Contre le mur, dans une écurie voisine, un cheval s'ébrouait et frappait du sabot. La révélation que Christophe venait d'avoir ne lui faisait aucun plaisir, mais elle l'occupait un instant. Il s'expliquait maintenant beaucoup de choses qu'il n'avait pas comprises. Une foule de petits faits, auxquels il n'avait pas prêté attention, lui revenait à l'esprit et s'éclairait pour lui. Il s'étonnait d'y penser. Il s'indignait de se laisser distraire une seule minute de sa misère. Mais cette misère était si atroce, si irrespirable, que l'instinct de conservation, plus fort que sa volonté, que son courage, que son amour, l'obligeait à en détourner les yeux, se jeter sur cette nouvelle pensée, comme le désespéré qui se noie saisit malgré lui le premier objet qui peut l'aider non à se sauver, mais à se soutenir un moment encore au-dessus de l'eau. D'ailleurs, c'est parce qu'il souffrait qu'il sentait à présent ce qu'une autre souffrait. Souffrait par lui. Il comprenait les larmes qu'il venait de faire répandre. Il avait pitié de Rosa. Il pensait combien il avait été cruel pour elle, combien il serait cruel encore, car il ne l'aimait pas. À quoi servait-il qu'elle l'aimât, pauvre petite? Il avait beau se dire qu'elle était bonne, elle venait de le prouver, que lui faisait sa bonté? Que lui faisait sa vie? Il pensa, pourquoi n'est-ce pas elle qui est morte et l'autre qui est vivante? Il pensa, elle vit, elle m'aime, elle peut me le dire aujourd'hui, demain toute ma vie. Et l'autre, la seule que j'aime, elle est morte, sans m'avoir dit qu'elle m'aimait. Je ne lui ai pas dit que je l'aimais. Jamais je ne le lui entendrai dire. Jamais elle ne le saura. Et le souvenir lui revint tout à coup de la dernière soirée. Il se rappela qu'ils allaient se parler quand l'arrivée de Rosa les en avait empêchés. Et il haït Rosa. La porte du bûcher se rouvrit. Rosa appela Christophe à voix basse, le chercha à tâtons. Elle lui prit la main. Il éprouvait une aversion à la sentir près de lui. Il se le reprochait en vain, c'était plus fort que lui. Rosa se taisait. La profondeur de sa compassion lui avait appris le silence. Christophe lui sut gré de ne point troubler son chagrin par des paroles inutiles. Pourtant il voulait savoir. Elle était la seule qui pût lui parler d'elle. Il demanda tout bas « Quand est-elle ?» Il n'osait dire « morte ». Elle répondit « Il y a eu samedi 8 jours ». Un souvenir lui traversa l'esprit. Il dit « Dans la nuit ». Rosa la regarda étonnée et dit « Oui, la nuit, entre 2 et 3 heures ». La mélodie funèbre lui réapparut. Il demanda en tremblant « A-t-elle beaucoup souffert ?»« Non, non, grâce au ciel, cher Christophe, elle n'a presque pas souffert. Elle était si faible. Elle n'a fait aucune résistance. Tout de suite, on a vu qu'elle était perdue. Et elle, est-ce qu'elle l'a vue? Je ne sais pas, je crois. Elle a dit quelque chose? Non, rien. Elle se plaignait comme un petit enfant. Tu étais là? Oui, les 2 premiers jours, j'étais là toute seule, avant que son frère ne vînt. Il lui serra la main dans un élan de reconnaissance. Merci. Elle sentit le sang lui refluer au cœur. Après un silence, il dit, Il balbutia la question qui l'étouffait. Elle n'a rien dit pour moi. Rosa secoua la tête tristement. Elle eût donné beaucoup pour pouvoir lui faire la réponse qu'il attendait. Elle se reprochait presque de ne pas savoir mentir. Elle tâcha de le consoler. Elle n'avait plus de conscience. Elle parlait. On ne comprenait pas bien. Elle parlait tout bas. « Où est la petite fille ?» Le frère l'a emmenée chez lui, dans son pays. « Et elle ?» Elle est aussi là-bas. Lundi de la semaine passée, elle est partie d'ici. Ils se remirent à pleurer. La voix de Madame Fogel rappela encore Rosa. Christophe, de nouveau seul, revivait ses journées de mort. 8 jours, il y avait 8 jours déjà. Oh Dieu, qu'était-elle devenue ? Comme il avait plu cette semaine sur la terre. Et lui, pendant ce temps, il riait, il était heureux. Il sentit dans sa poche un paquet enveloppé dans du papier de soie. C'était des boucles d'argent qu'il lui rapportait pour ses souliers. Il se souvint du soir où sa main s'était posée sur le petit pied déchaussé. Ses petits pieds, où étaient-ils maintenant? Comme il devait avoir froid. Il pensa que le souvenir de ce tiède contact était le seul qu'il eût de ce corps bien-aimé. Jamais il n'avait osé le toucher, le prendre dans ses bras, l'étreindre contre le sien. Elle s'en était allée, tout entière inconnue, pour jamais. Il ne savait rien d'elle, ni de son âme, ni de sa chair. Il n'avait pas un souvenir de sa forme, de sa vie, de son amour. Son amour, quelle preuve en avait-il? Il n'avait pas une lettre, pas une relique, rien. Où la saisir, où la chercher? En lui-même? Hors de lui? Ô néant! Il ne lui restait rien d'elle que l'amour qu'il avait pour elle, il ne lui restait que lui. Et malgré tout, son désir enragé de l'arracher à la destruction, son besoin de nier la mort, faisait qu'il s'attachait à cette dernière épave dans un acte de foi forcené. Nessun già morto, e ben c'albergo canci, resto in te vivo, cor mi vedi e piangi, se l'un nell'altro amante si trasforma. Je ne suis pas morte, j'ai changé de demeure, je reste vivante en toi qui me vois et qui pleure. En l'âme de l'amant se change l'âme aimée. Il n'avait jamais lu ces sublimes paroles, mais elles étaient en lui. Chacun remonte à son tour le calvaire des siècles. Chacun retrouve les peines, chacun retrouve l'espoir désespéré et la folie des siècles. Chacun remet ses pas dans les pas de ceux qui furent, de ceux qui luttèrent avant lui contre la mort, nièrent la mort, sont morts. Il se mura chez lui, ses volets restaient clos tout le jour pour ne pas voir les fenêtres de la maison d'en face. Il fuyait les Fogel, il lui était odieux. Il n'avait rien à leur reprocher, c'étaient de trop braves gens et trop pieux pour n'avoir pas fait taire leurs sentiments devant la mort. Ils savaient la peine de Christophe, et ils la respectaient, quoi qu'ils en pussent penser. Ils évitaient de prononcer devant lui le nom de Sabine. Mais ils avaient été ses ennemis quand elle vivait. C'était assez pour qu'il fût le leur, maintenant qu'elle ne vivait plus. D'ailleurs, ils n'avaient rien changé à leur façon bruyante. Et malgré la pitié sincère, mais passagère, qu'ils avaient éprouvée, il était évident que ce malheur leur était indifférent au fond. C'était trop naturel. Peut-être même en éprouvait-il un secret débarras. Christophe l'imaginait du moins. Maintenant que les intentions des Fogel à son égard lui devenaient claires, il était porté à se les exagérer. En réalité, il tenait fort peu à lui, et il s'attribuait une trop grande importance. Mais il ne doutait pas que la mort de Sabine, en écartant le principal obstacle au projet de ses hôtes, ne leur parût laisser le champ libre à Rosa. Aussi, il la détesta. Que l'on eût, les Fogel, Louisa, Rosa même, disposé de lui tacitement, sans même le consulter, cela seul eût suffi, dans n'importe quel cas, pour lui enlever toute affection pour celle qu'on voulait qu'il aimât. Il se cabrait, toutes les fois qu'on lui semblait toucher à son ombrageuse liberté. Mais ici, il n'était pas seul en cause. Les droits qu'on s'arrogeait sur lui ne portaient pas seulement atteinte à ses droits, mais à ceux de la morte à qui son cœur s'était donné. Aussi les défendait-il âprement, bien que personne ne les attaquât. Il suspectait la bonté de Rosa, qui souffrait de le voir souffrir, et venait souvent frapper à sa porte pour le consoler et lui parler de l'autre. Il ne la repoussait pas. Il avait besoin de causer de Sabine avec quelqu'un qui l'eût connu. Il voulait savoir le plus petit détail de ce qui s'était passé pendant la maladie. Mais il n'en était pas reconnaissant à Rosa. Il prêtait à son cœur des mobiles intéressés. Ne voyait-il pas que la famille, qu'Amalia même, permettait ses visites et ses longues causeries, que jamais elle n'eût autorisées si elle n'y avait trouvé son compte? Rosa n'était-elle pas d'accord avec les siens? Il ne pouvait croire que sa compassion fût tout à fait sincère et dénuée de pensées personnelles. Et sans doute elle ne l'était pas. Rosa plaignait Christophe de tout son cœur. Elle faisait effort pour voir Sabine avec les yeux de Christophe, pour l'aimer au travers de lui. Elle se reprochait sévèrement les mauvais sentiments qu'elle avait pu avoir contre elle, et lui en demandait pardon le soir dans ses prières. Mais pouvait-elle oublier qu'elle, elle, était vivante, qu'elle voyait Christophe à toute heure du jour, qu'elle l'aimait, qu'elle n'avait plus à craindre l'autre, que l'autre s'effaçait, que son souvenir même s'effacerait à son tour, qu'elle restait seule, qu'un jour, peut-être? Pouvait-elle réprimer, au milieu de sa douleur, de la douleur de son amie, qui était plus sienne que la sienne, pouvait-elle réprimer un brusque mouvement de joie, un espoir irraisonné? Elle se le reprochait ensuite. Ce n'était qu'un éclair. C'était assez, il l'avait vu. Il lui jetait un regard qui lui glaçait le cœur. Elle y lisait des pensées haineuses. Il lui en voulait de vivre, quand l'autre était morte. Le meunier, avec sa voiture, vint chercher le petit mobilier de Sabine. En rentrant d'une leçon, Christophe vit étalé devant la porte, dans la rue, le lit, l'armoire, les matelas, le linge, tout ce qui avait été à elle, tout ce qui restait d'elle. Ce lui fut un spectacle odieux. Il passa précipitamment. Sous le porche, il se heurta à Berthold, qui l'arrêta. « Ah, mon cher monsieur, disait-il en lui serrant la main avec effusion, hein, qui aurait dit cela quand nous étions ensemble? Comme nous étions contents, tous. C'est pourtant depuis ce jour-là, depuis cette sacrée promenade sur l'eau, qu'elle a commencé à aller mal. Enfin, cela ne sert à rien de se plaindre. Elle est morte. Après elle, ça sera notre tour. C'est la vie. Et vous, comment allez-vous? Moi, très bien, Dieu merci. » Il était rouge, suant et sentait le vin. L'idée que c'était son frère, qu'il avait des droits sur son souvenir, blessait Christophe. Il souffrait d'entendre cet homme parler de celle qu'il aimait. Le meunier était heureux, au contraire, de trouver un ami avec qui causer de Sabine. Il ne comprenait pas la froideur de Christophe. C'est qu'il ne se doutait pas de tout ce que sa présence, l'évocation subite de la journée à la ferme, les souvenirs heureux qu'il rappelait lourdement, les pauvres reliques de Sabine qui jonchaient le sol et qu'il poussait du pied, en causant, remuait de souffrance dans l'âme de Christophe. Le seul nom de Sabine, chaque fois qu'il revenait dans sa bouche, déchirait Christophe. Il cherchait un prétexte pour faire taire Berthold. Il gagna l'escalier, mais l'autre s'attachait à lui, l'arrêtait sur les marches, continuait son récit. Enfin, comme le meunier lui racontait la maladie de Sabine, avec le plaisir étrange que trouvent certaines gens, surtout des gens du peuple, à parler des maladies, avec un luxe de détails pénibles, Christophe n'y tint plus. Il se raidissait pour ne pas crier de douleur. Il l'interrompit net. « Pardon, dit-il avec une sécheresse glaciale, il faut que je vous quitte. » Il le quitta sans autre adieu. Cette insensibilité révolta le meunier. Il n'avait pas été sans deviner la secrète affection de sa sœur et de Christophe. Que celui-ci lui témoigna d'une telle indifférence lui parut monstrueux. Il jugea que Christophe n'avait point de cœur. Christophe avait fui dans sa chambre. Il suffoquait. Tant que dura le déménagement, il ne sortit plus de chez lui. Il s'était juré de ne pas regarder par la fenêtre, mais il ne pouvait s'empêcher de le faire. Et caché dans un coin, derrière ses rideaux, il suivait le départ des hardes aimées avec une attention douloureuse. En les voyant disparaître pour toujours, il était sur le point de courir dans la rue, de crier « Non, non, laissez-les-moi, ne me les emportez pas !» Il voulait supplier qu'on lui donnât au moins un objet, un seul objet, qu'on ne la lui prît pas tout entière. Mais comment eût-il osé le demander au meunier? Il n'était rien pour lui. Son amour, elle-même, ne l'avait pas su. Comment aurait-il osé le dévoiler à un autre? Puis, s'il avait essayé de dire un mot, il eût éclaté en sanglots. Non, non, il fallait se taire. Il fallait assister à cette disparition totale, sans pouvoir, sans oser rien faire pour sauver un débris du naufrage. Et quand tout fut fini, quand la maison fut vide, quand la porte cochère se fut refermée sur le meunier, quand les roues du chariot se furent éloignées en ébranlant les vitres, quand leur bruit s'effaça, il se jeta par terre, n'ayant plus une larme, plus une pensée pour souffrir ou pour lutter, glacé comme mort lui-même. On frappa à la porte, il resta immobile. On frappa de nouveau. Il avait oublié de s'enfermer à clé. Rosa entra. Elle eut une exclamation en la voyant étendue sur le plancher et s'arrêta effrayée. Il souleva la tête avec colère. « Quoi? Que veux-tu? Laisse-moi » Elle ne s'en allait pas. Elle restait hésitante, adossée à la porte. Elle répétait « Christophe ». Il se releva en silence. Il était honteux qu'elle l'eût vu ainsi. En s'époustant de la main, il demanda durement « Eh bien, qu'est-ce que tu veux ?» Rosa, intimidée, dit « Pardon, Christophe, je suis entré, je t'apportais. » Il vit qu'elle tenait un objet à la main. « Voilà, dit-elle en le lui tendant. J'ai demandé à Berthold qu'il me donnât un souvenir d'elle. J'ai pensé que cela te ferait plaisir. » C'était une petite glace d'argent, le miroir de poche où elle se regardait, des heures, moins par coquetterie que par désœuvrement. Christophe le saisit la main qui le lui tendait. « Oh, Rézi, fit-il. Il était pénétré par sa bonté et par le sentiment de sa propre injustice. D'un mouvement passionné, il s'agenouilla devant elle et lui baisa la main. « Pardon, pardon, dit-il. » Rosa ne comprit pas d'abord, puis elle comprit trop bien. Elle rougit, elle trembla, elle se mit à pleurer. Elle comprit qu'il voulait dire « Pardon si je suis injuste, pardon si je ne t'aime pas, pardon si je ne puis pas t'aimer, si je ne t'aimerai jamais. » Elle ne lui retirait pas sa main. Elle savait que ce n'était pas elle qui l'embrassait. Et la joue appuyée sur la main de Rosa, il pleurait à chaudes larmes, sachant qu'elle lisait en lui. Il avait une amère tristesse à ne pouvoir l'aimer, à la faire souffrir. Ils restèrent ainsi, pleurant tous deux, dans le crépuscule de la chambre. Enfin, elle dégagea sa main. Il continuait de murmurer « Pardon ». Elle lui posa sa main doucement sur la tête. Il se releva. Ils s'embrassèrent en silence. Ils sentirent sur leurs lèvres l'âcre goût de leurs larmes. « Nous serons toujours amis, » dit-il tout bas. Elle hocha la tête et le quitta, trop triste pour parler. Il pensait que le monde est mal fait. Qui aime n'est pas aimé. Qui est aimé n'aime point. Qui aime et est aimé est un jour, tôt ou tard, séparé de son amour. On souffre, on fait souffrir. Et le plus malheureux n'est pas toujours celui qui souffre. Christophe recommença à fuir la maison. Il n'y pouvait plus vivre. Il ne pouvait voir en face les fenêtres sans rideaux, l'appartement vide. Il connut une pire douleur. Le vieux Euler se hâta de relouer le rez-de-chaussée. Un jour, Christophe vit dans la chambre de Sabine des figures étrangères. De nouvelles vies effaçaient les dernières traces de la vie disparue. Il lui devint impossible de rester au logis. Il passa des journées entières dehors. Il ne revenait qu'à la nuit, quand il ne pouvait plus rien voir. De nouveau, il reprit ses courses dans la campagne. Elle le ramenait invinciblement à la ferme de Berthold. Mais il n'y entrait pas. Il n'osait approcher. Il faisait le tour de loin. Il avait découvert un point sur une colline d'où l'on dominait la ferme, la plaine et la rivière. Ce fut son but de promenade habituel. De là, il suivait des yeux les méandres de l'eau jusqu'au bouquet de saules sous lesquels il avait vu passer l'ombre de la mort sur les traits de Sabine. De là, il distinguait les deux fenêtres des chambres où ils avaient veillé, côte à côte, si près, si loin, séparés par une porte, la porte de l'éternité. De là, il planait au-dessus du cimetière. Il n'avait pu se résoudre à y entrer. Il avait depuis l'enfance l'horreur de ces champs pourris auxquels il se refusait à attacher l'image des êtres qu'il aimait. Mais d'en haut et de loin, le petit champ des morts n'avait rien de sinistre. Il était calme, il dormait au soleil. Dormir. Elle aimait dormir. Rien ne la dérangerait, là. Les chants des coqs se répondaient à travers la plaine. De la ferme montait le bourdonnement du moulin, les piaillements de la basse-cour, les cris des enfants qui jouaient. Il apercevait la petite fille de Sabine, il la voyait courir, il distinguait son rire. Une fois, il la guetta près de la porte de la ferme, dans un repli du chemin creux qui faisait le tour des murs. Il la saisit au passage, il l'embrassa furieusement. La petite eut peur et se mit à pleurer. Elle l'avait presque oublié déjà. Il lui demanda « Es-tu contente ici ?»«
Oui, je m'amuse. »
« Tu ne veux pas revenir ?»«
Non. »
Il l'avait lâché. Cette indifférence d'enfant le désolait. Pauvre Sabine. C'était elle pourtant, un peu d'elle, si peu. L'enfant ne ressemblait pas à sa mère. Il avait passé en elle, mais il n'était pas elle. À peine avait-il gardé de ce mystérieux passage un parfum très léger de l'être disparu. Des inflexions de voix, un petit froncement de lèvres, une façon de ployer la tête. Le reste de la personne était tout un autre être. Et cet être mêlé à celui de Sabine répugnait à Christophe sans qu'il se l'avouât. Ce n'était qu'en lui-même que Christophe retrouvait l'image de Sabine. Partout, elle le suivait. Elle flottait autour de lui. Mais il ne se sentait véritablement avec elle que quand il était seul. Nulle part, elle n'était plus près de lui que dans ce refuge, sur la colline, loin des regards au milieu de ce pays, plein de son souvenir. Il faisait des lieues pour y venir. Il y montait en courant, le cœur battant, comme à un rendez-vous. C'en était un, en effet. Dès qu'il était arrivé, il se couchait à terre, cette même terre où son corps était couché. Il fermait les yeux, et elle l'envahissait. Il ne voyait pas ses traits, il n'entendait pas sa voix, il n'en avait pas besoin. Elle entrait en lui, elle le prenait, il la possédait tout entière. Dans cet état d'hallucination passionnée, il n'avait même pas la force de penser. Il ne savait pas ce qui se passait, il ne savait rien, sinon qu'il était avec elle. Cet état dura peu. À dire vrai, il ne fut tout à fait sincère qu'une seule fois. Dès le lendemain, la volonté y avait part. Et depuis lors, vainement Christophe tâcha de le faire revivre. C'est alors seulement qu'il pensa à évoquer en lui la figure et la forme précise de Sabine. Jusque-là, il n'y songeait point. Il y réussit par éclair, et il en était tout illuminé, mais c'était au prix d'heures d'attente et de nuit. « Pauvre Sabine, pensait-il, ils t'oublient tous. Il n'y a que moi qui t'aime, qui te garde pour toujours, ô mon précieux trésor. Je t'ai, je te tiens, je ne te laisserai pas échapper. » Il parlait ainsi parce que déjà elle lui échappait. Elle fuyait de sa pensée comme l'eau au travers des doigts. Il revenait toujours, fidèle au rendez-vous. Il voulait penser à elle, et il fermait les yeux. Mais il lui arrivait, après une demi-heure, une heure, deux heures parfois, de s'apercevoir qu'il n'avait pensé à rien. Les bruits de la vallée, le bouillonnement des écluses, les clochettes de deux chèvres qui broutaient sur la colline, le bruit du vent dans les petits arbres grêles, au pied desquels il était étendu, imbibait sa pensée poreuse et molle comme une éponge. Il s'indignait contre sa pensée. Elle s'efforçait de lui obéir et de fixer l'image disparue à laquelle il voulait lier sa vie. Mais sa pensée retombait, lasse et endolorie, et de nouveau elle se livrait, avec un soupir de soulagement, au flot paresseux des sensations. Il secoua sa torpeur. Il parcourut la campagne en tous sens à la recherche de Sabine. Il la cherchait dans le miroir où son sourire avait passé. Il la cherchait au bord de la rivière où ses mains s'étaient trempées. Mais le miroir et l'eau ne lui rendaient que son propre reflet. L'excitation de la marche, l'air frais, son sang vigoureux qui battait, réveillèrent des musiques en lui. Il voulut se donner le change. « Oh, Sabine !» soupirait-il. Il lui dédia ses chants. Il entreprit de faire revivre dans sa musique son amour et sa peine. Il avait beau faire, amour et peine revivaient bien. Mais la pauvre Sabine n'y trouvait pas son compte. Amour et peine regardaient vers l'avenir et non vers le passé. Christophe ne pouvait rien contre sa jeunesse. La sève remontait en lui avec une impétuosité nouvelle. Son chagrin, ses regrets, son chaste et brûlant amour, ses désirs refoulés exaspéraient sa fièvre. En dépit de son deuil, son cœur battait des rythmes allègres et violents. Des chants emportés bondissaient sur des maîtres ivres. Tout célébrait la vie, la tristesse même prenait un caractère de fête. Christophe était trop franc pour persister à se faire illusion, et il se méprisait. Mais la vie l'emportait, et triste, l'âme pleine de mort et le corps plein de vie, il s'abandonna à sa force renaissante, à la joie délirante et absurde de vivre, que la douleur, la pitié, le désespoir, la blessure déchirante d'une perte irréparable, tous les tourments de la mort, ne font qu'aiguillonner et aviver chez les forts, en labourant leurs flancs d'un éperon furieux. Christophe savait d'ailleurs qu'il gardait en lui, dans les retraites souterraines de l'âme, un asile inaccessible, inviolable, où l'ombre de Sabine était close. Le torrent de la vie ne saurait l'emporter. Chacun porte au fond de lui comme un petit cimetière de ceux qu'il a aimés. Ils y dorment des années, sans que rien vienne les troubler. Mais un jour vient où la fosse se rouvre. Les morts sortent de leur tombe et sourient de leurs lèvres décolorées, aimantes toujours à l'aimé, à l'amant, dans le sein duquel leurs souvenirs reposent, comme l'enfant qui dort dans les entrailles maternelles.